Turning now to Psalm 34, verse 8.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 34 et au verset 9. Psaume 34, verset 9. Ces paroles de David: goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Et notre sujet est expérimenter Dieu personnellement, de près. C'est là le grand appel de David, avant qu'il ne devienne roi. Oh, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Il veut nous montrer que de venir à Dieu, c'est une vraie expérience, une expérience réelle. Rencontrez Dieu, que votre esprit soit amené à la vie. C'est là le sujet de ce psaume, de trouver Dieu d'une manière personnelle et de marcher avec lui. Et le souci de David, c'est de souligner la réalité de cette expérience avec Dieu. Nous passons souvent du temps à montrer l'existence de Dieu. Mais David ne fait pas ceci dans ce psaume. Il ne parle pas du tout de cela. Mais c'est une bonne chose que de convaincre les gens de l'existence de Dieu et des preuves de Dieu. David le fait ailleurs et il pourrait montrer qu'il doit y avoir un créateur. Oui, même dans ce que vous pourriez appeler la période pré-scientifique, il était nécessaire de montrer cela. Et nous aimons faire ceci également. Mais David ne fait pas ceci dans ce psaume ici. Nous pourrions montrer et démontrer la véracité extraordinaire de la parole de Dieu et prouver qu'elle est inspirée en amenant l'attention sur la manière par laquelle elle explique elle seule la condition humaine. Ce sont des arguments très convaincants pour convaincre les gens de l'existence de Dieu, la véracité de sa parole. Et David ne fait pas ceci dans ce psaume. Même si ce sont des bonnes choses à faire. Il aurait pu parler, par exemple, de la validité des prophéties dans l'Écriture et la précision extraordinaire des prophéties. Mais il ne fait pas cela. Il aurait pu montrer le vide de l'athéisme, de l'incrédulité et combien ceci se contredit soi-même. Il ne fait pas ces choses dans ce psaume. Il se concentre dans ce psaume sur le fait de montrer la réalité de l'expérience, de rencontrer Dieu pour le connaître. C'est là le sujet de ce psaume, entièrement. Ainsi, alors que dimanche dernier, nous avons considéré une ligne d'un verset, et ce soir, nous allons essayer de considérer le psaume en entier. Ainsi, je n'aurai pas le temps pour des illustrations ou pour des points, mais j'aimerais passer par ce psaume en entier pour essayer de montrer les arguments de David et les choses qu'il amène dans ce psaume. Ceci est écrit avant qu'il ne devienne roi. Il est poursuivi et à un moment donné, il fait la chose la plus insensée et il se réfugie dans une ville des Philistins. Et ceci l'amène presque à sa mort, mais il arrive à fuir tout juste de cette situation. Ceci est insensé et ne lui ressemble pas. Mais là, après ceci, il commence à écrire un psaume qui semble être un psaume de reconnaissance. Mais tout de suite après, il tourne ce psaume comme étant un récit. Et c'est moins un psaume de reconnaissance qu'un récit qui parle de la réalité et de l'expérience spirituelle. Et ce grand appel pour ceux qui le lisent à chercher le Dieu vivant. Et sur ce fondement, nous continuons. Ainsi, je ne donnerai pas de points. J'espère que ceci ne sera pas confus dans ce sens-là. Premier verset, au verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. » Et le premier point de David ici, c'est que c'est une expérience permanente, continuelle. La plupart des choses dans la vie sont des expériences qui dure pendant un certain temps, limité, peut-être quelques années, mais ceci est une expérience continuelle, permanente. Il est venu à Dieu Et il connaît la preuve de la main de Dieu dans sa vie, sa bénédiction, la bonté de Dieu, c'est quelque chose qui ne le laissera jamais. Il n'y a rien qui peut être comparé à ceci dans la vie. Tout vous laisse à un moment donné, vous abandonne. Un jour ou l'autre, vous devez laisser vos richesses, vous devez laisser peut-être votre époux, votre épouse, votre santé, et votre jeunesse va vous abandonner, et votre vigueur également, parfois des amis. Mais il y a une chose qui, si vous l'avez trouvée, ne vous laissera jamais. C'est une expérience vivante avec Dieu. Elle est toujours là. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Et c'est venir à Dieu quand vous le trouvez. Alors, il vous dit, je ne vous abandonnerai jamais, il est toujours prêt, ses yeux sont toujours là sur vous et vous êtes son enfant. C'est là le verset 2. Et j'en arrive rapidement au verset 3. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les débonnaires, les humbles, l'entendront et se réjouiront. Et c'est un point un peu différent. Toute gratitude, tout crédit pour toute relation avec Dieu, dit David, est entièrement en Dieu. C'est grâce à lui, c'est lui qui a amené ces choses, c'est lui qui a rendu ces choses possibles, ce n'est pas moi. Jamais j'aurais pu mériter ceci, jamais je n'aurais pu mériter cette rencontre avec Dieu ou mériter sa faveur, sa bonté, sa protection. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Nous pourrions passer toute la soirée avec ce verset. Il parle de son âme, l'âme de l'homme. L'âme, c'est votre esprit, votre cœur, votre volonté, plus votre conscience et votre esprit, si vous voulez. Souvent utilisé comme synonyme pour l'âme, c'est ces cinq aspects de votre personne, votre capacité à raisonner, vos affections, votre capacité à déterminer ce que vous faites, ce que vous voulez, votre conscience, et cet esprit qui dort en vous, qui est votre potentiel, votre capacité à entrer en relation avec Dieu et à lui parler, et à le connaître, et à marcher avec lui. Mais spirituellement parlant, cette âme est inactive. Avant que nous ne venions à Dieu, les gens trouvent que ceci est un peu offensant, mais ce n'est pas ce que je veux faire, je ne veux offenser personne. Mais c'est comme si nous disions, nous sommes comme à moitié vivants. Nous pourrions être la personne la plus vigoureuse possible, mais notre esprit ne fonctionne pas. Notre âme, spirituellement parlant, ne fonctionne pas. Nous sommes comme vivants à moitié. Nous vivons uniquement pour les choses matérielles. Mon âme est amenée à la vie, dit David. Elle se glorifiera en l'Éternel, trouvera sa vraie valeur dans le Seigneur. Il est tout pour nous. Ceux qui sont humbles l'entendront et se réjouiront. Les humbles, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne parle pas en termes ordinaires de ceux qui sont humbles. Ce terme traduit par humble en hébreu signifie ceux qui sont courbés, ceux qui sont brisés. Ceci semble un peu déprimant, mais David dit « Ceux qui sont découragés, ceux qui sont courbés, entendront ce message et ils se réjouiront. » C'est là ce dont ils ont besoin. Ils pensaient qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient dans cette vie. Ils étaient pleins de confiance en eux-mêmes un jour et ils excellaient dans tout ce qu'ils faisaient. Mais ils sont arrivés à leurs limites. Ils ont réalisé que la vie, même si vous la rendez palpitante dans cette vie, il y a plus que cela. Et ils ont commencé à considérer leur faiblesse, leur péché devant Dieu. Les débonnaires, ceux qui sont humbles, ceux qui sont courbés, sont ceux dont les oreilles sont ouvertes, qui entendent ce message que David proclame. C'est pour eux, ceux qui sont orgueilleux, n'écoutent pas ce message. Ils ne veulent pas entendre ce message. Mais dès que nous commençons à être réalistes, alors notre esprit est ouvert. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Elle trouvera toute sa valeur dans le Seigneur. et ceux qui sont courbés entendront ce message et se réjouiront. Parce qu'il y a de l'aide qui est accessible pour eux de la part de Dieu. Au verset 4, « Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons son nom tous ensemble. » Et David, c'est comme s'il disait dans ce verset, et je vais être bref, « Ceci est pour tous. » Ceci est un appel large, un appel général de l'Évangile, comme nous l'appelons en théologie. Ce n'est pas simplement pour moi, dit David. Un jour, oint pour être roi, pour les riches, ceux qui sont privilégiés, ceci est pour tous. Écoutez, écoutez tous ceux qui veulent écouter. Magnifiez l'Éternel, exaltez l'Éternel. Exaltons son nom tous ensemble. Et joignez-vous avec tous ceux qui ont cherché et trouvé le Seigneur. C'est pour tous, ce n'est pas élitiste. Ce n'est pas quelque chose de tout spécial. C'est pour les riches et les pauvres, pour les gens intelligents, pour les gens simples, pour les gens qui ont le succès, ceux qui n'ont pas le succès. C'est pour tous. C'est là la signification et l'essence même du verset 4. Ensuite, le verset 5. « J'ai cherché l'Éternel. » Et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Chers amis, chercher, c'est essentiel. J'ai cherché l'Éternel, dit David. Vous pourriez l'appeler le roi. Et il m'a entendu, il m'a délivré. Et nous devons réaliser que nous sommes dans l'obscurité et chercher notre chemin pour sortir de cette obscurité. Nous sommes perdus, mais vous devez chercher le Seigneur. Sinon, jamais vous ne pouvez le trouver. Si jamais vous ne venez à lui, si jamais vous ne le cherchez, vous ne le priez, jamais vous ne le trouverez. Ce n'est pas quelque chose qui peut être hérité, ce n'est pas quelque chose qui est acquis, mais vous devez le chercher. Et David nous dit ceci dans le verset 5. Et ensuite au verset 6, l'a-t-on regardé ? C'est là un exemple de ceux qui le cherchent et qui le trouvent. C'est là ce qui se passe au verset 6. L'a-t-on regardé ? On en est illuminé. On n'a pas à rougir de honte. Nos traducteurs ont trouvé ce verset un peu difficile. L'a-t-on regardé ? On en est illuminé. Et en hébreu, ce terme signifie littéralement « ils l'ont regardé » et « ils ont cligné des yeux ». C'est une illustration, c'est comme une rivière, un petit torrent qui coule et qui attrape la lumière et qui reflète la lumière. C'est là l'idée derrière ce terme hébreu. Si vous le cherchez, alors vous êtes comme un courant d'eau. Vous vous approchez de lui et vous allez à lui. Et vous êtes de plus en plus pressé à aller à lui quand vous comprenez ce qui se passe alors que vous vous approchez de lui. Et pour vous, c'est un grand plaisir. C'est la vie, je cherche la vie, je cherche Dieu. C'est là la puissance d'en haut pour me transformer. Et c'est là sa miséricorde libre, quelque chose que Christ a donné, le Sauveur, pour ceux qui viennent à lui. Peu importe ce que j'ai fait, même si j'ai été loin de Dieu, je peux retourner à lui. Et plus j'apprends par rapport au chemin du salut, plus je suis pressé de le trouver. C'est là l'idée de ce verset. Ils l'ont regardé et ils ont été illuminés. Et on n'a pas à rougir de honte. Au verset 7, cet affligé a crié. Mais David, tu vas être roi. Tu es dans la difficulté à ce moment-là parce que tu es poursuivi, mais tu as été oint par le prophète de Dieu. Tu sais que c'est inévitable. Tu vas régner sur tout le pays. Que fais-tu ? Tu te décris comme étant un affligé ? Et David répondrait, oui, parce que c'est là ce que je suis en moi-même, un pécheur contre Dieu, quelqu'un qui a cherché mon propre chemin dans la vie. Et cependant, il y a la miséricorde qui est là pour moi. Cet affligé a crié, c'est un appel à Dieu que vous devez faire et lancer. C'est un appel pour le pardon, pour la vie. Et l'Éternel l'a exaucé et l'a délivré de toutes ses détresses. Mais le verset 7 nous montre l'humilité et le désir profond dans notre approche. Et au verset 8 également, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Mais j'aimerais continuer rapidement en arrivant au verset 9 par lequel j'ai commencé. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se confie en lui. David ne dit pas essayez. Pour nous, il semble presque que c'est là ce qu'il dit, goûtez et voyez, oh, vous pouvez avoir un échantillon, vous n'avez pas besoin de demander le pardon de Dieu, le salut, vous pouvez avoir un échantillon en avance pour essayer. Et alors, quand vous êtes satisfait avec ceci, après cela, vous pouvez donner votre vie au Seigneur et le chercher. Non, ce n'est pas ce que David dit ici, goûtez et voyez, essayez. Non, il dit ceci. Si vous vous confiez en lui, que vous vous repentez de vos péchés, si vous lui donnez votre vie, si vous venez à lui, alors il n'y a aucun doute, il va garder sa promesse et vous allez recevoir toute sa bonté. Heureux l'homme, heureux, c'est heureux de manière suprême. Heureux l'homme qui se retire vers lui, qui se confie en lui. Je crois que Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, est venu du ciel dans ce monde. Il a vécu une vie parfaite pour représenter tous les pécheurs qui se tournent vers lui. Il a souffert, il est mort à la croix du calvaire pour porter dans son propre corps, d'une manière mystérieuse, toute la condamnation terrible et horrible qui nous est due à cause de notre péché. Et ainsi, il a payé le prix pour nous racheter, pour nous pardonner librement. Il a pris notre condamnation à notre place pour que nous puissions être ses enfants, pour transformer notre vie, pour nous bénir. Et je me confie en lui, en cela. Je me confie dans ce qu'il a fait et en lui seul. Je le veux lui, j'ai besoin de lui désespérément. Je vais venir à lui et lui donner ma vie. Je vais me repentir de mon péché et me confier en lui. Et ensuite, au verset 10, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Le temps passe et je vais aller plus loin. Au verset 11, un argument que David amène ici, « Les lionceaux ont disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel n'auront faute d'aucun bien. » Le lion ici, le lionceau, est sélectionné par David ici en particulier parce qu'il est invincible et fort. Il a plein d'énergie. Et cependant, il souffre et il a faim. Et l'implication de ce verset, c'est que vous ne pouvez pas trouver Dieu en essayant de lui présenter vos propres capacités ou votre propre valeur. Non, ceci ne vaut rien pour lui. Ceci n'est rien pour lui. Et sans espoir, avec tous vos péchés, les lionceaux ont disette. Mais vous ne pouvez rien mériter par vous-même. Et toute capacité que vous avez, il vous les a données au départ. Elles lui appartiennent et vous les avez gâchées pour vous-même. Ces choses ne vont pas vous donner sa faveur, son acceptation, son pardon, son amour. Mais seuls ceux qui cherchent l'Éternel, seuls ceux qui le cherchent le trouveront dans ces termes que David a mentionnés, en le désirant, en réalisant leurs besoins et dans la repentance. Alors ils seront bénis par le Seigneur. Et ces gens-là ne manqueront de rien. Nous ne parlons pas de choses matérielles, mais des grandes choses de la vie, l'aide de Dieu, une vie nouvelle, la vie éternelle, les choses qui ont vraiment de la valeur dans la vie. Alors ils ne manqueront de rien. Et ensuite, l'appel continue au verset 12. « Venez, enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Et ce verset signifie ceci. Dieu œuvre uniquement dans le cœur de ceux qui écoutent. Il œuvre uniquement en ceux qui l'écoutent. David, ici, prend la position de Dieu. Il enseigne le peuple comme étant la bouche de Dieu. « Venez, enfants, écoutez-moi. » Les gens que Dieu bénit sont ceux qui l'écoutent. Notre problème, c'est que beaucoup d'entre nous nous disons « Oh non, s'il y a un Dieu, si nous pouvons marcher avec lui ou le connaître ou être acceptés par lui ou avoir sa bénédiction, alors je dois comprendre comment, par moi-même. Je dois concocter ma propre religion, ma propre théologie. Je dois rechercher et réaliser qu'est-ce que je pense, quelle est mon opinion, comment est-ce que je peux avoir la faveur de Dieu, qu'est-ce que je pense être le bon chemin pour lui plaire. Ceci va vous amener nulle part. Les seules personnes dans lesquelles Dieu œuvre, c'est ceux qui l'écoutent. Si Dieu dit, c'est là une race humaine qui a chuté loin de lui, vous le croyez. Si Dieu dit, nous sommes pécheurs et il n'y a aucun espoir pour nous en dehors de Christ, alors nous le croyons. Si Dieu dit, la seule manière d'avoir son pardon, c'est par Christ qui est venu pour nous représenter, pour souffrir, pour mourir à notre place, pour prendre notre condamnation à notre place. C'est là le seul chemin. Et oui, bien sûr, c'est le seul chemin parce que Dieu est parfaitement juste et saint et ne peut pas simplement pardonner le péché. Le péché doit être condamné. Il est parfaitement juste. Quelle miséricorde, quelle bonté qu'il prenne la condamnation lui-même, qu'il vienne, qu'il souffre, qu'il meure pour nous. Nous devons l'écouter, lui. Si Dieu dit, c'est là le chemin. Je pardonne à ceux qui viennent, qui se repentent, et je transforme leur vie par ma toute-puissance. Alors, nous devons croire ceci, c'est le seul chemin. C'est le chemin essentiel. Venez, enfant, dit David, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Ainsi, nous écoutons. Et c'est un besoin pressant d'écouter. Ensuite, il continue au verset 13. Quel est l'homme qui prenne plaisir à vivre ? Ne parlons pas simplement de la vie sur cette terre, mais la vie abondante. Quand l'âme est en vie, autant que le corps, et a cette relation avec Dieu, et elle continue éternellement. Quel est l'homme qui prenne plaisir à vivre, qui aime avoir des jours de bonheur, qui aime avoir des jours de bonheur, c'est-à-dire des vérités spirituelles. Et au verset 14, nous devons renoncer au péché, garde ta langue du mal, détournez-vous de votre ancienne vie. Nous ne pouvons pas faire ces choses par notre propre force, mais lui peut faire ceci en nous et nous rendre capables. Et ensuite, cette promesse, verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quelle transformation! Vous venez à Dieu. Et ceci est implicite dans ces versets. J'aurais pu considérer ces éléments. Vous venez au Seigneur, vous croyez que vous avez besoin de lui, vous croyez dans ce que Christ a fait à la croix du calvaire, le seul chemin du salut, vous vous repentez de votre péché, vous lui donnez votre vie et votre vie est transformée. Il vous donne une nouvelle nature, de nouveaux désirs pour Dieu, pour la sainteté. Il vous donne un nouvel esprit. Vous pouvez comprendre les choses comme Dieu les voit. Vous aimez les Écritures, les enseignements de Dieu et vous comprenez que le monde est plein de mal autour de vous et vous voyez la véracité de la parole de Dieu et vous recevez le don de la prière et Dieu entend vos prières et y répond. Vous avez les preuves en vous. À présent, vous aspirez à plaire à Dieu. Vous ne pouvez plus faire les choses que vous faisiez auparavant. Vous avez été transformé d'une manière si importante. C'est là la preuve, vous le savez, Dieu vous a transformé et vous l'aimez et vous le priez et il répond à vos prières et vous le servez. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alors que si vous continuez, que vous n'êtes pas sauvé, alors, au verset 17, la face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, contre vous, même dans vos buts, dans vos efforts, contre vous. Et au verset 18, quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. C'est une promesse très large qui signifie ceci, que rien ne peut vous blesser pour blesser ce qui compte réellement, votre destinée éternelle. Et votre communion avec Dieu. Rien ne peut vous ôter ces choses, parce que vous êtes indestructible, spirituellement parlant. C'est là ce que David veut dire quand il dit au verset 20 « Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. » Et c'est là son analogie. Il garde tous ses os. Il ne parle pas littéralement du fait que vous n'allez jamais casser un os, mais ceci parle de votre préservation. Vous êtes gardé en tant que personne pour toute l'éternité. Chers amis, considérez ces paroles glorieuses. Ceci nous rappelle la repentance au verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il délivre ceux qui ont l'esprit contrit. Un cœur brisé et un esprit contrit. Ce sont des termes puissants et forts. Le cœur brisé, le terme traduit en hébreu par brisé, c'est littéralement, il est si lourd qu'il explose, qu'il pleure. Et ceci est clair, l'Éternel est près de vous. Si vous aspirez à son pardon, s'il ne me pardonne pas, je meurs. S'il ne me pardonne pas, l'éternité est perdue pour moi. Si je ne suis pas pardonné, la vie va continuer et sera sans aucun sens. Une vie limitée, une vie matérielle, uniquement pour les choses présentes. Si je ne suis pas pardonné, transformé par Dieu, alors je serai toujours une victime du péché. Un cœur lourd, brisé, et il délivre ceux qui ont l'esprit contrit. Ce terme hébreu ici, c'est blessé, détruit. Nos traducteurs ont utilisé ces termes raffinés, mais c'est là le sens en hébreu, et nous venons dans la repentance. Nous aspirons à être sauvés, à avoir le Seigneur, à le connaître, à avoir une expérience réelle de son œuvre dans notre cœur pour nous transformer, pour faire de nous ses enfants, librement, parce que nous avons été rachetés uniquement, entièrement par Christ. Et je vais conclure avec le verset 23. L'Éternel rachète, il achète si vous voulez, il rachète l'âme de ses serviteurs. C'est là ce que Christ a fait à la croix du calvaire, quand il a pris la condamnation du péché à notre place et il a acheté le droit de pardonner à tous ceux qui viennent à lui. Et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera détruit. Ce terme « détruit » dans les psaumes, parfois c'est une traduction du terme hébreu pour « abandonner ». Et parfois c'est une traduction, comme ici, du terme hébreu de « coupable ». Aucun de ceux qui se confient en lui ne sera coupable ou trouvé coupable. Mais nous sommes libres de toute condamnation, purifiés, et délivrer des conséquences du péché. Oh, ce texte est profond pour nous, et riche, et tant de thèmes à considérer ce soir, différents thèmes dans chaque verset. David était un écrivain profond. Ici, il dit que la conversion est une expérience permanente au verset 1, et tout le crédit pour la conversion vient de Dieu. La conversion ne peut pas être méritée. Et tous peuvent venir à lui, tous, c'est l'appel général de l'évangile. Puis au verset 5, cherchez, c'est essentiel, vous devez chercher le Seigneur. Au verset 6, nous devons rechercher le salut et aspirer au salut et le désirer. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et au verset 7, la repentance est essentielle. Nous voyons ceci ici. Au verset 8, vous aurez la paix, la joie de la part de Dieu. Et jamais vous ne connaissiez ceci auparavant. Et je peux lire tout ce psaume. Il y a cette relation particulière avec Dieu. Il y a un thème dans chaque verset. C'est là David qui nous amène à réaliser le besoin de rencontrer Dieu pour cette expérience réelle et sans aucun doute, cette vie nouvelle, cette réconciliation avec lui. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, Fais-nous grâce ce soir, nous te prions. Montre-nous, Seigneur, ces choses. Accorde-nous qu'il y ait ceux présents ici qui aspirent à être pardonnés, purifiés, transformés et à marcher avec toi et avoir cette expérience mystérieuse de la conversion. Et combien ceci est merveilleux. Seigneur, imprime ces preuves dans notre vie et montre-nous ces choses, nous te prions. Et bénis, Seigneur, les âmes qui ont faim et soif de toi. Nous te le demandons dans le nom de notre Sauveur, pour sa gloire. Amen.